Kian adorait jouer au football. Et puis, à l'âge de 12 ans, ses yeux ont commencé à le faire souffrir. Il avait du mal à se concentrer, à lire, même à taper dans un ballon. Il s'est renfermé sur lui-même. Kian était en train de devenir aveugle.
J'étais terrifié. Je voulais pas devenir aveugle.
Pendant 3 ans, sa mère l'a emmené consulter de nombreux médecins pour savoir ce qui lui arrivait.
Pendant ces 3 ans, le pire a été de s'entendre dire qu'on ne pouvait rien faire. Il allait devenir aveugle et voilà, c'était tout.
Au cours de toutes ces consultations et tous ces examens, aucun médecin n'a pensé à lui prescrire ceci. 2 capsules par an peuvent sauver la vue d'un enfant, et même sa vie. Ce remède a déjà sauvé plus de 5 millions de personnes. Et ce n'est pas un médicament. Ça, c'est de la vitamine A. Pourquoi Kian souffrait-il d'une telle carence en vitamine A? Depuis l'âge de 6 ans, il ne se nourrissait que d'aliments peu nutritifs, comme le poulet ou les frites. Il refusait catégoriquement de manger des fruits et des légumes.
Il préférait mourir de faim que d'en manger. Et si on le forçait, il les vomissait.
Des centaines de milliers d'enfants malnutris sont sur le point de devenir aveugles à cause d'une carence en vitamine A. La plupart vivent dans des pays en voie de développement. Mais s'ils sont diagnostiqués tôt, leur vue peut être sauvée. Pour Kian, des compléments alimentaires fortement dosés en vitamine A ont permis de sauver son œil droit, mais pas son œil gauche. La vitamine A a le pouvoir de redonner la vue aux aveugles. Mais attention, si vous ne souffrez d'aucune carence, il ne sert à rien d'en prendre. Et trop de vitamine A est toxique. On peut en mourir. En 1913, 2 explorateurs sont en perdition dans l'Arctique, Douglas Mawson et Xavier Mertz. Ils n'ont presque plus rien à manger et se retrouvent face à un choix difficile, manger leur chien ou mourir. À contre-cœur, les 2 hommes mangent leur chien et tombent malades, brûlant de fièvre. Quelques jours plus tard, Xavier Mertz meurt. Contre toute attente, Douglas Mawson parvient à regagner le camp de base. Quelle est la mystérieuse maladie qui a tué Xavier Mertz et failli emporter son compagnon? Eh bien, quand ils ont mangé leur chien, ils n'ont pas ingéré uniquement de la chair et de la graisse, ils ont aussi mangé le foie, qui contient de grandes quantités de vitamine A. En fait, ils ont fait une overdose. Xavier Mertz est devenu fou. Il a fait ce qu'on appelle une hypervitaminose A. L'hypervitaminose A est rare, mais elle est fatale. Aujourd'hui, on sait qu'elle peut être causée par une surdose de compléments en vitamine A. Le même type de compléments qui peuvent sauver la vue d'un enfant. Ce pouvoir et cette complexité sont au cœur de la grande histoire des vitamines. Je vais parcourir le monde pour découvrir l'histoire et la nature des vitamines. Ça, c'est un gros poisson. Comment les a-t-on découvertes? C'est pas dangereux, c'est sûr. Qu'est-ce qu'une vitamine? On peut diviser les 13 vitamines en 2 groupes. Comment a-t-on appris à les fabriquer?
Tonight, Walgreens and Target have pulled the products nationwide.
Et sont-elles sans danger?
Toutes les vitamines, tous les nutriments sont toxiques à haute dose.
Il faut faire attention, comme on le fait pour tout produit chimique qu'on absorbe. Il ne faut pas partir du principe qu'elles sont sans danger.
On ne connaît pas les effets à long terme des compléments alimentaires.
Je suis un scientifique, mais je suis aussi père de famille. Et je veux faire au mieux pour la santé de mon fils. Un jour peut-être, il prendra des vitamines pour aller sur Mars.
A Des experts du monde entier affirment que la prise de vitamines peut sauver des vies. D'autres disent que c'est inutile, voire dangereux. Alors, comment savoir si nous devons prendre des vitamines ou pas? Chaque jour, partout dans le monde, les êtres humains suivent un même rituel. Choisir leur nourriture.
Tu veux tester...
Une qu'on n'a jamais faite, hein? Non, bah non, on a déjà fait celle-là. Et celle-là?
Celle-là?
Ouais. Ou sinon l'italienne, mais bon...
Mais qu'est-ce que c'est? C'est une girafe. C'est très important d'essayer de manger équilibré, surtout depuis qu'on a les enfants.
On n'a pas besoin de saucisson. On mange très peu de produits industriels. On achète nous-mêmes les produits, on les cuisine. On n'a pas l'habitude d'acheter des choses qui ont été transformées par l'industrie. C'est pas dans nos habitudes.
Le goût, c'est le plus important. Vaut mieux manger quelque chose de bon, pas bio, que de...
Que de bio, pas bon.
Oui, que de bio, pas bon.
C'est un petit marron. Petit rouge.
Eh oui.
Qu'est-ce que vous avez acheté?
Alors, on a acheté des superbes pommes.
C'est des Gala et des...
Granny.
Mmh.
Granny Smith.
Tout ça bio. Tu connais ça? Champignon de Paris.
Ah oui.
Frais. Ça, c'est délicieux, pareil. Ça a énormément de goût.
C'est vrai qu'avant les enfants, on avait peut-être une hygiène de vie un peu moins bonne.
Oui.
Et c'est vrai que maintenant, il y a quand même voilà, beaucoup moins de charcuterie, beaucoup moins de fromage, beaucoup moins de vin et beaucoup plus de légumes.
Les Français prennent de plus en plus de compléments alimentaires. Aujourd'hui, un adulte sur trois en consomme au moins une fois par an, contre 1 sur 5 il y a 10 ans.
Est-ce que vous prenez des vitamines?
Des vitamines, oui, on prend beaucoup de vitamines. On en prend, les enfants en prennent.
Est-ce que je peux les voir?
Oui, je vais les chercher.
Du magnésium,
voilà.
De la vitamine B, du guarana. Mm-hmm.
Ça, c'est la vitamine pour Charlotte. Donc c'est de la vitamine D en petites gouttes. On lui donne 4 gouttes par jour. Mathis en prenait aussi. Et là, récemment, maintenant, lui, il prend des ampoules. Il en prend 4 fois par an. Avant chaque changement de saison, il prend une ampoule. Et nous aussi, on prend des ampoules de vitamine D. On en prend plutôt 2 fois par an, tous les 6 mois. Moi, en ce moment, je prends du magnésium et du fer et de l'acide folique. Et je trouve que je suis moins fatiguée. Tout ce qui est vitamine D est prescrit par le médecin.
Vous avez vraiment l'impression que ces vitamines vous aident?
Oui. Oui, c'est ça. Ouais. Pour nous, ça peut... Enfin, moi, c'est vrai que je ne me suis jamais posé la question de savoir si c'était... si ça pouvait être mauvais.
Douce et Benjamin font ce qu'ils croient être bon pour leur santé. Ils partent du principe que ces produits leur sont bénéfiques. Et cette confiance est cruciale. Nous sommes plus d'un milliard à prendre au moins une vitamine ou un complément alimentaire. Nous espérons ainsi rester en bonne santé aussi longtemps que possible. Mais la plupart d'entre nous ne savent rien de ces produits. Ce plat banal contient presque tous les nutriments et les vitamines dont nous avons besoin. On trouve des vitamines A, B et K dans la salade, plein de vitamine B dans le poulet, de la vitamine C dans la tomate, de la vitamine K dans le concombre, de la vitamine D dans le jaune d'œuf. Il y a même des vitamines dans le café qu'on ajoute du lait ou non. En réalité, ce plat contient toutes ces vitamines-là. Mais au fait, c'est quoi une vitamine? Quels sont leurs effets sur le corps? Et en quelle quantité en avons-nous besoin? Il y a environ un siècle, on ignorait l'existence des vitamines. On savait qu'on avait besoin de protéines, de glucides, de matières grasses et de minéraux. Et on pressentait qu'il existait d'autres substances vitales dans les aliments. Au début du XXe siècle, des millions de personnes souffraient encore de maladies qui sont devenues rares aujourd'hui. Le beriberi, la pélagre, le rachitisme, le scorbut. À l'époque, on pensait qu'elles étaient dues à la présence d'un agent infectieux. On ne jurait que par les germes et les toxines. Mais une idée révolutionnaire commence à émerger. En 1897, un médecin néerlandais, Christian Eijkman,
remarque par hasard que des poules nourries exclusivement au riz blanc tombent malades. Elles présentent des symptômes très proches de ceux du beriberi. Il pense d'abord à une toxine. Mais peu après, Gerrit Grinds démontre qu'il manque quelque chose dans le riz blanc. Il y a une carence. Puis, en 1911, un chimiste polonais tente d'identifier cette substance manquante. Il s'appelle Casimir Funk. Casimir Funk ne sait pas ce qu'est cette substance mystérieuse, mais il invente un nom pour la décrire. Il le crée à partir du latin vita, la vie, et amine, car elle contient de l'azote, ce qui donne vitamine avec un E en français mais pas en anglais. Il invente ainsi un mot accrocheur qui incarne une nouvelle idée, celle de l'existence d'une famille de nutriments dont l'absence cause des maladies. Très vite, il va devenir évident que ce ne sont pas uniquement des amines, mais le nom va rester, et le mot vitamine va devenir célèbre et prendre son envol. On découvre bientôt que le beriberi, la pellagre, le rachitisme et le scorbut sont tous dus à un déficit en vitamines. Christian Eichmann va remporter un prix Nobel conjoint, mais pas Gerrit Grinds ni Casimir Funk. En quelques décennies, on va identifier 13 vitamines. Très vite, on va les synthétiser pour en faire des pilules. Casimir Funk est loin de se douter que sa vitamine va donner naissance à un marché de 100 milliards de dollars par an. La Vitamania vient de commencer. Me voici dans l'un des plus grands salons mondiaux de la nutrition. Il accueille chaque année des dizaines de milliers de visiteurs venus acheter et vendre ce qui se fait de mieux en matière de vitamines et de compléments alimentaires. Je veux voir ce qu'on y trouve.
Vous ressentez les effets sur le cerveau au bout de 4 jours. Au niveau des capacités cognitives, de la mémoire, on dort comme un bébé.
On sait que l'argent, en tant qu'élément chimique, a des propriétés antivirales, antifongiques, antibactériennes. Il augmente le taux de globules blancs et booste le système immunitaire.
Ce sont des vitamines naturelles issues d'extraits de plantes et au lieu de les mettre dans un sirop sucré, on les met dans la nourriture.
Les vitamines ont une sorte d'aura qui fait que dès qu'on écrit le mot « vitamine » sur un produit, on a l'impression qu'il est miraculeux et sans danger.
Catherine Price est journaliste scientifique. Elle a passé 5 ans à enquêter sur les vitamines.
On a tendance à imaginer que les compléments alimentaires sont produits de façon artisanale, à base d'herbes médicinales du jardin ou d'oranges que l'on fait bouillir pour récupérer la vitamine C. En réalité, c'est un marché de 40 milliards de dollars par an aux États-Unis et de 100 milliards dans le monde, et il se développe rapidement.
Qui prend des vitamines ?
Plus de la moitié des Américains prennent des compléments alimentaires. Et c'est drôle, parce que c'est plutôt la moitié de la population qui se porte bien. Il faut être un minimum sensibilisé aux questions de santé pour acheter ces produits.
Il contient des oméga 3, 6 et 9, et c'est la seule source végétale d'oméga 7 dans le monde.
Tous nos produits multivitaminés ont une base d'oméga 3 d'huile de poisson et de vitamine B12 et D3.
C, D, E, toutes les vitamines B, acide folique, il y a de tout.
Généralement, les vitamines sont prises en automédication, sans aucun avis médical.
La catégorie la plus représentée, ce sont les multivitamines. On nous inculque dès notre plus jeune âge que ces cocktails vitaminés sont à prendre au cas où. Par exemple, si on ne mange pas assez de fruits et de légumes au quotidien. Le marché des vitamines repose en grande partie sur l'espoir qu'elles suscitent chez les gens.
Cette poudre ici est une formule à base de citrate de magnésium.
Notre antifatigue est à base d'un complexe complet de vitamine B.
Ce sont des modificateurs de réponse biologique.
Il y a des vitamines là-dedans ?
Oh, oui ?
Un peu.
Regardez, ici.
Et puis, Catherine m'apprend quelque chose d'incroyable.
Comment la production de vitamines est-elle encadrée ?
Elles ne le sont pas au sens où on l'entend généralement. En théorie, la FDA, l'Agence américaine des aliments et des médicaments, doit les contrôler. Mais dans les faits, et c'est valable pour les 85 000 compléments alimentaires du marché, il n'y a pas d'obligation de prouver qu'elles sont sans danger ou efficaces pour les commercialiser.
Donc, pas d'encadrement.
L'agence ne peut pas exiger de ses fabricants des analyses prouvant les bienfaits ou l'absence de danger de leurs produits.
Et ce n'est pas seulement aux États-Unis. En Australie et en Europe, la loi n'oblige pas à prouver l'innocuité des compléments alimentaires pour les mettre en vente. Et les vitamines pour enfants ?
C'est la même chose que pour les adultes. Il n'est pas obligatoire de prouver qu'elles sont sans danger ou efficaces pour les commercialiser.
Donc, on ne teste pas forcément ce qu'on donne aux enfants ?
Pas du tout ?
Non.
Aujourd'hui, nous avons le pouvoir extraordinaire de manipuler notre alimentation. C'est inédit dans l'histoire de l'humanité. Mais comment savoir si ce que nous faisons n'est pas dangereux ? Je suis un scientifique, et en tant que physicien, j'ai besoin de preuves. Et quand je vois ce qu'affirment certaines étiquettes ici, j'ai des doutes. Mais bon, je garde l'esprit ouvert. Les recherches sur les vitamines ont quand même fait l'objet d'au moins 10 prix Nobel. Je veux comprendre de quoi on parle exactement. Et pour cela, il faut revenir aux fondamentaux. Une vitamine, qu'est-ce que c'est ? Les vitamines sont des composés essentiels à la vie. Sans eux, on tombe malade. On peut même mourir. Notre corps ne produit pas de vitamines. Il les synthétise à partir de notre nourriture. Pour l'instant, on a identifié 13 vitamines. Enfin, on les a regroupées sous ce nom, mais ce sont des molécules très différentes, avec des effets très différents. Il y a la vitamine A, 8 vitamines B, les vitamines C, D et E, et la vitamine K. Ces 13 vitamines peuvent être réparties en deux groupes. Les vitamines solubles dans l'eau, soit toutes les vitamines B et la vitamine C, et les vitamines solubles dans la graisse, soit les vitamines A, D, E et K, ADEC. En quoi est-ce important ? En fait, on élimine facilement l'excès de vitamines hydrosolubles dans l'urine, mais on stocke les liposolubles dans le foie et le tissu adipeux. On peut donc les accumuler et atteindre des concentrations toxiques. Comment étudiez-vous les vitamines ?
Je recherche tous les composants de notre nourriture.
Yasmine Probst est diététicienne. C'est une experte en vitamines. Donc ça, c'est la quantité de vitamines dont on a besoin au quotidien ?
Oui, c'est une représentation très proche de la réalité, c'est très peu.
Il n'y a presque rien.
Tout à fait. Des grains de poussière.
On voit à peine la vitamine D.
C'est vrai ?
On dirait quelques pincées de sel ou d'épices.
Ouais ? Oui ? C'est vraiment tout petit. Petit comme une graine de pavot.
Donc, pour couvrir tous mes besoins quotidiens en vitamines, je dois manger ça.
Exactement. Ça fait pas beaucoup.
Moi, ça me ferait un seul repas. J'ai l'impression que c'est le plat et le dessert.
C'est ce dont un homme adulte a besoin.
On a l'impression qu'il faut manger des quantités énormes, toute une assiette d'épinards par exemple, pour combler les besoins quotidiens en vitamines. Alors qu'en fait, c'est assez peu.
Oui, je crois qu'il y a un malentendu. On a tendance à croire qu'il faut énormément de tel ou tel aliment, alors qu'il en faut très peu. Et ce qui compte, c'est de choisir les bons aliments, de manger équilibré pour absorber les bons nutriments.
Une seule carotte comble mes besoins quotidiens en vitamine A ?
C'est ça, une carotte de taille moyenne.
Quand on mange une carotte, les vitamines passent dans le système sanguin. Commence alors la danse complexe des molécules. Prenons la vitamine A. Notre corps la synthétise à partir d'une molécule végétale, le bêta-carotène. Puis, il la convertit en différentes formes de vitamine A, indispensables à la vision, à la régulation du système immunitaire et même au bon développement de l'embryon. Chaque vitamine déclenche de formidables réactions chimiques. Ensemble, elles influent sur toutes les parties du corps. Sans ces 13 vitamines, on ne peut pas entendre, sentir, penser, toucher, goûter, respirer. Elles nous maintiennent en vie. En fait, elles sont la vie.
Quand tout fonctionne, c'est un système merveilleux. Mais quand on n'en a pas assez, quand on souffre de carences, l'organisme se détraque.
Je me suis rendu compte que j'étais tout le temps fatigué. Je me sentais faible, j'avais les gencives qui saignaient, ce genre de choses, et ça ne faisait qu'empirer. Et puis je dormais énormément. Par exemple, je pouvais dormir d'une traite de 6 heures du soir à 10 heures du matin. C'est énorme. Ça m'a fait peur. Je savais que c'était pas normal. Heureusement que je suis allé voir le docteur Churchill.
La maladie de Sonny Lopez, personne n'y avait pensé. On ne la dépistait plus depuis des décennies. Mais son cas n'est pas isolé.
J'ai eu un premier patient qui avait des rougeurs douloureuses sur les deux jambes et des douleurs articulaires. Il était fatigué et avait d'autres symptômes. Il avait été soigné pour ce qu'on croyait être une infection aux jambes, mais il n'y avait eu aucune amélioration. On avait alors pensé à des caillots de sang, mais là encore, les tests avaient été négatifs. Quelqu'un a eu alors l'idée de l'interroger sur son alimentation. On s'est aperçu que depuis plusieurs années, il ne mangeait que du pain blanc et du fromage industriel. Pas de fruits, pas de légumes, rien qui puisse lui fournir les apports nutritionnels de base. Suite à cela, on a voulu vérifier son taux de vitamine. On n'a pas détecté la moindre trace de vitamine C. Son taux était à zéro.
Eric Churchill est abasourdi. Ses patients souffrent d'une maladie qui a pratiquement disparu depuis un siècle. Le scorbut.
C'est quelque chose qu'on associe aux pirates du XVIIIe siècle. On ne pensait pas que ça existait encore.
Le scorbut a fait énormément de victimes. On a calculé qu'entre la fin du XVe siècle et le début du XIXe siècle, 2 millions de marins en sont morts.
C'est du boulot, en fait.
John Waller est spécialiste de l'histoire de la médecine. Il a étudié le lien entre le scorbut et l'alimentation.
Voilà la ration ordinaire d'un marin de la Royal Navy au XVIIIe siècle. Environ une livre de biscuits de mer très durs. Ensuite, 250 grammes de petits pois secs, de la viande salée, et pour faire passer tout ça, à peu près 3,5 litres de bière par jour.
Mais il manque quelque chose.
Oui, quelque chose de très important. C'est la vitamine C, bien sûr.
On avait l'intuition que certains aliments pouvaient guérir le scorbut. L'idée n'était pas nouvelle. Elle avait déjà été découverte et oubliée plusieurs fois.
De temps à autre, un médecin prescrivait un agrume à titre d'essai. Et les marins recouvraient alors miraculeusement la santé. Mais la consommation d'agrumes n'est jamais devenue une pratique habituelle.
Quand a-t-on compris comment guérir du scorbut?
C'est arrivé progressivement. Mais il y a eu quelques épisodes fondateurs. En 1747, par exemple, un chirurgien de bord écossais a procédé au premier essai clinique contrôlé de l'histoire de l'humanité.
James Lind avait été témoin des horreurs du scorbut. En général, les médecins de bord prescrivaient aux malades différents remèdes et croisaient les doigts. Mais Lind a voulu tenter autre chose. Il a choisi 12 hommes atteints du scorbut et il les a répartis en groupes de deux. Chaque groupe mangeait sa ration ordinaire et prenait des traitements soi-disant curatifs. Cidre, vinaigre, eau de mer, élixir de vitriol, c'est-à-dire de l'acide sulfurique dilué, décoction d'ail et de moutarde, ou orange et citron.
Les deux marins qui prenaient des agrumes ont vu leur état s'améliorer considérablement. Ceux qui avaient pris du cidre allaient un peu mieux. Les autres ont continué à dépérir et ils se sont rapidement retrouvés à l'article de la mort. Cette expérience lui a permis d'aboutir à une conclusion très claire. Les fruits frais et les légumes peuvent être utilisés pour soigner le scorbut.
L'expérience de Lynn est fondatrice, selon vous?
À elle seule, cette découverte a sauvé des millions de vies. Ça, c'est un fait indiscutable. Mais le travail de Lynn a eu un impact plus large et plus durable. Parce que par la suite, cet essai clinique contrôlé ou comparatif est devenu la norme en médecine. C'est une innovation extrêmement importante. On avait découvert une méthode fiable pour identifier les traitements qui fonctionnent.
Quand James Lind publie ses résultats quelques années plus tard, il ne consacre qu'une poignée de paragraphes à son expérience, noyée au milieu d'un livre de 400 pages. C'est comme s'il ne s'était pas rendu compte de l'importance de sa découverte. D'ailleurs, elle serait peut-être tombée dans l'oubli si un jeune médecin, Gilbert Blane, n'avait réussi à convaincre la marine britannique de procurer du jus de citron à ses matelots. On était en 1795, un an après la mort de James Lind et 48 ans après son expérience historique. Le citron et plus tard le citron vert deviennent l'arme secrète de la Royal Navy. La marine britannique s'impose comme la première du monde. Les fruits ont décidé de la destinée de nations entières. Ils nous ont permis de traverser les océans, de vivre et de prospérer, alimentés par une nourriture adéquate. Pourtant, le pouvoir salvateur des vitamines semble parfois retomber dans l'oubli.
Il y a combien de personnes ici?
Une quinzaine.
Vous habitez là depuis longtemps?
5 ans.
Ça fait un bail.
Ah oui. Voilà mon royaume. Eux, c'est ma famille, les gens que j'aime. C'est moi, j'avais 21 ans.
Vous aviez une sacrée coupe.
Ouais, c'était l'époque des hippies.
Vous avez une belle famille.
Merci. C'est là que je range mes céréales, mon pain, le beurre de cacahuète. Le frigo est dans le couloir. Venez, je vous montre. J'aime les hamburgers, les hot dogs, les sodas, les gâteaux, les céréales industrielles. Je ne vais pas vous mentir, je mange très sucré. Dans mon café, je mets 15 sucres et 2 dosettes de crème.
Les personnes qui ont très peu de moyens vont souvent avoir tendance à choisir de la nourriture riche en matières grasses et en calories, et très roborative. Si votre budget est réduit, vous allez opter pour des aliments rassasiants qui apportent un plus grand sentiment de satiété que les fruits et légumes. Bonjour.
Bonjour, docteur. Ça va?
Super. Sonny a beaucoup de soucis à gérer. Alors manger des fruits et des légumes, ce n'est pas du tout sa priorité.
J'ai cru que j'avais une maladie terrible. J'étais mort de peur. C'est un mot très moche, le scorbut.
Quand on a diagnostiqué le scorbut de Sonny, la première mesure qu'on a prise a été de lui prescrire de la vitamine C pour corriger sa carence. Par la suite, il s'est avéré qu'il avait du mal à prendre les compléments. Alors j'ai pris mon bloc d'ordonnance, j'ai écrit une orange par jour et je lui ai donné.
Sonny n'est pas le seul touché par la maladie.
Ces 5 dernières années, on a identifié 30 cas de scorbut. À ma connaissance, c'est la plus grande concentration de cas dans un pays développé, à l'exception de situations très particulières, comme des zones de conflit ou des camps de réfugiés.
C'était quoi leur problème? C'est qu'ils ne mangeaient pas assez?
Pas du tout. Ce n'est pas une question de quantité, mais de qualité. En fait, plus de la moitié des personnes touchées étaient obèses. Leur alimentation leur fournissait suffisamment de calories, mais ce sont des calories de mauvaise qualité, peu nutritives. C'est ce qu'on appelle la malnutrition hypercalorique.
Le scorbut est très facile à prévenir. La dose de vitamine C recommandée n'est vraiment pas élevée. À la limite, une poignée de sachets de sauce tomate de marque bien connue en contient assez pour vous protéger du scorbut. Je n'en fais pas la publicité, mais c'est suffisant.
Ça peut surprendre, mais les agrumes ne sont pas les seuls champions de la vitamine C. Les kiwis, les fraises et les poivrons rouges en contiennent aussi beaucoup. Mais la vitamine C est fragile. Elle se dégrade rapidement. Selon une étude, si on laisse une pomme à température ambiante, elle perd 75% de sa vitamine C en une semaine. Donc la teneur en vitamine C décroît au fil du temps.
Oui, du fait de la chaleur, de la lumière, des conditions de stockage.
Comment faire alors pour maximiser l'apport nutritionnel?
Manger frais et local. Moins il s'écoule de temps entre la récolte et la consommation, mieux c'est.
Le pouvoir de la vitamine C fascine. Alors très vite, les chercheurs vont l'isoler et déterminer sa formule chimique. En 1937, ces travaux seront couronnés par deux prix Nobel. Ils vont permettre de fabriquer la première vitamine de synthèse ou artificielle. À votre avis, d'où vient la vitamine C de vos comprimés? Ça, c'est la dernière usine de production de vitamine C encore en activité en Occident. Aujourd'hui, les vitamines sont en grande majorité synthétiques. Elles sont fabriquées dans ce genre d'usine. En général, le but est de répliquer la structure des molécules naturelles. On espérait vous montrer ce procédé ici, mais après 12 mois de négociations, nous n'avons pas eu l'autorisation de filmer à l'intérieur. Alors, pour comprendre comment on fabrique une vitamine, suivez le guide.
Pour fabriquer une vitamine, il faut des matières premières. Vous n'allez pas me croire, mais 8 vitamines peuvent être créées à partir de combustibles fossiles, comme les goudrons de houille. Ils contiennent des éléments comme l'acétone, le dissolvant du vernis à ongles, des alcanes que l'on trouve dans le pétrole et divers noyaux aromatiques présents dans le bitume. Le principe est de combiner ces briques pour en faire des molécules complexes afin de construire, littéralement, les vitamines. L'opération demande une grande précision. Il suffit d'un rien pour altérer leur fonction. Les vitamines de synthèse ne proviennent pas toutes de combustibles fossiles. On peut par exemple extraire le sucre du sirop de maïs, le faire fermenter avec des bactéries et grâce à une réaction chimique, obtenir de la vitamine C de synthèse. La plupart des vitamines artificielles ont la même formule chimique que leur équivalent naturel, mais sans les fibres et micronutriments des aliments. Bref, la différence, c'est que notre source de vitamines n'est plus la nature, mais l'usine. Produire des vitamines à l'échelle industrielle, c'est bien plus efficace et bien moins cher.
Aujourd'hui, la Chine fabrique plus de 80% de la vitamine C disponible dans le monde. Il est assez difficile de savoir d'où viennent les matières premières. Ce qui est sûr, c'est qu'elles sont produites, comme ici, de façon artificielle. Elles sont ensuite envoyées vers des usines du monde entier pour être transformées en comprimés. En Australie, la loi oblige les fabricants à tester les ingrédients à la livraison. On doit s'assurer que le produit correspond à ce que dit l'étiquette. Ensuite, la fabrication commence. On mélange l'ingrédient brut avec des additifs et des liants. À chaque produit, sa recette. On a vu que les quantités de vitamines requises pour la santé sont infimes. Alors, de quoi est fait le reste du comprimé? Eh bien, on ajoute souvent des éléments neutres, comme la cellulose, des sucres ou de la farine de riz. Ils donnent du volume et facilitent la dissolution du comprimé dans l'organisme. On peut aussi ajouter des couleurs et des goûts pour rendre les vitamines plus attrayantes. Le procédé de fabrication est similaire pour la plupart des vitamines de synthèse en fonction du produit fini qu'on veut obtenir. Des milliers de comprimés anonymes sont déversés dans des contenants. Vient ensuite l'étape de l'étiquetage pour les identifier. Les vitamines ont désormais une identité, une marque. Elles sont prêtes à inonder le marché.
C'est intéressant. Un fabricant a le droit d'écrire « fabriqué en Australie » sur ses vitamines, même si aucun des ingrédients ne vient de ce pays. Et si on veut affirmer qu'il s'agit d'un produit naturel, eh bien, comme la plupart des pays n'ont pas officiellement défini ce que le mot « naturel » veut dire, le produit peut contenir des ingrédients artificiels. Mais admettons que vous n'ayez jamais pris de comprimé de vitamines. Vous pourriez penser que vous n'êtes pas du tout concerné par ces procédés de fabrication industrielle. Eh bien, vous auriez tort. Vous ne prenez peut-être pas de comprimés, mais vous ingérez certainement des vitamines de synthèse. Car dans au moins 95 pays du monde, on en ajoute dans la nourriture.
Eat Wonder Bread. You want to go bigger and stronger, don't you?
Golly, sure.
Okay. A sandwich daily and two slices of Wonder Bread every meal give you 8 elements you need.
La moitié des pays du monde autorise l'ajout de vitamines de synthèse dans les aliments ordinaires. C'est ce qu'on appelle l'enrichissement.
That's why you can help yourself grow bigger and stronger 8 ways with Wonder Bread.
So be sure to eat Wonder Bread.
Aux États-Unis et en Australie, il est obligatoire d'enrichir la farine du pain et la margarine. Souvent, les entreprises décident d'elles-mêmes d'enrichir leurs produits en vitamines, surtout en vitamine B. Les vitamines B sont celles qui vous donnent du peps. Elles participent à la production d'énergie et au métabolisme des cellules. Parce qu'elles sont solubles dans l'eau, comme la vitamine C, notre corps ne les stocke pas. Il faut souvent refaire le plein. Il a fallu plus de 50 ans pour les identifier et les synthétiser. Un travail récompensé par 6 prix Nobel. Dans le pain, on ajoute souvent de la vitamine B9, le célèbre folate. Mais d'où vient ce besoin d'enrichir le pain? Kim Robbins a 29 ans. C'est une star internationale de basket en fauteuil roulant. C'est un professionnel et il joue dans le monde entier. Sa vie entière a été déterminée par le folate.
Kim est né avec un hémangiome dans le dos, entre les omoplates. C'était une lésion qui ressemblait un peu à une marque de naissance. On nous a assuré que tout allait bien. Ce n'est que vers l'âge de 6 mois qu'on a commencé à s'inquiéter. Il n'arrivait pas à faire certaines choses qu'il aurait dû pouvoir faire à cet âge.
Après des mois d'examen, il s'est avéré que Kim avait une anomalie du tube neural. Un trou dans la colonne vertébrale qui avait causé des séquelles irréversibles.
Mon handicap se manifeste aussi par des maux de dos chroniques au niveau des reins. J'ai des douleurs environ 250 fois par jour. Ça fait comme des spasmes. Sinon, mon cerveau fonctionne parfaitement. Mes jambes ne fonctionnent pas normalement. Je peux marcher. Pas super bien, mais je peux faire quelques pas.
Les anomalies du tube neural peuvent être dues à une carence en folate, bien avant la naissance.
L'idéal, c'est de prendre le folate dans la nourriture. Il est présent en grande quantité dans les légumes verts à feuilles. On le trouve aussi dans les asperges, les fraises, les céréales complètes. Donc, si vous mangez des fruits et des légumes, il est très probable que votre alimentation soit riche en folate. Le folate intervient dans la réparation de l'ADN et de l'ARN, mais aussi chez le fœtus, lors de la multiplication rapide des cellules. Il est donc essentiel à cette étape.
Fiona Stanley a participé à une étude internationale sur les enfants. L'étude a démontré qu'une carence en folate dans l'alimentation d'une mère, même avant sa grossesse, pouvait entraîner de graves séquelles in utero.
Les organes majeurs du fœtus commencent à se former avant même qu'une femme sache qu'elle est enceinte. Et l'un des premiers de ces organes, vers la septième semaine, c'est le tube neural. Au départ, il est ouvert, comme une petite gouttière. Et petit à petit, il se referme à partir du milieu.
Je l'imagine comme une fermeture éclair. Tous les liens s'imbriquent pour former le tube neural. Et s'il manque un maillon, on a une anomalie du tube neural. La mienne est entre les vertèbres T2 et T6, donc assez haut. Ma moelle épinière est un peu atrophiée. Certains messages passent et d'autres non.
Quand une femme sait qu'elle est enceinte, il est peut-être déjà trop tard. Alors les scientifiques ont cherché le moyen de mettre du folate, sous une forme ou une autre, dans un aliment de consommation courante.
Il y a eu beaucoup de débats sur l'aliment qu'il fallait enrichir. Et bien sûr, parmi les candidats potentiels, il y avait la farine pour le pain, car c'est un aliment de base.
Alors, depuis 2009, le pain australien est enrichi à l'acide folique, la forme synthétique du folate. Il est obligatoire d'en mettre dans toutes les farines de blé destinées à la fabrication du pain. C'est la même chose aux États-Unis, au Canada et en Grande-Bretagne. Seuls les pains biologiques ou traditionnels en sont dispensés. On recommande aussi des suppléments d'acide folique aux femmes qui envisagent d'avoir un enfant.
Je ne connaissais pas l'existence du folate avant ma grossesse. Je n'avais jamais entendu parler d'anomalie du tube neural. Est-ce que ça aurait changé quelque chose si j'avais pris du folate au début de ma grossesse ? Oui, ça aurait changé beaucoup de choses. Peut-être que Kim n'aurait pas été handicapée. Je ne peux rien changer à ce qui est arrivé. C'est comme ça. Et je ne peux pas me le reprocher.
En Australie, l'enrichissement et la supplémentation en acide folique ont divisé par deux le nombre d'anomalies du tube neural.
C'est vraiment cool de pouvoir faire ce que j'aime. On me demande souvent si j'aurais préféré ne pas être en fauteuil roulant. Je réponds que non, parce que je n'aurais peut-être pas fait autant de choses. Je suis assez content de ma vie et de ce que j'ai accompli.
En Europe, on enregistre chaque année plus de 4000 anomalies du tube neural. Pourtant, ici, l'enrichissement des aliments n'est pas obligatoire. Alors, pourquoi l'Europe a-t-elle choisi une approche différente ? Mathilde Touvier dirige une équipe de recherche qui enquête sur le rapport entre l'alimentation et la santé.
Ça, c'est pour moi.
Tenez.
Merci. Alors dites-moi, lesquels de ces pains sont enrichis ?
Aucun d'entre eux. En France, on n'enrichit pas la farine.
Mais vous avez aussi des anomalies du tube neural.
Oui, bien sûr. D'ailleurs, on recommande aux femmes qui envisagent une grossesse ou qui viennent de tomber enceinte de prendre de la vitamine B9 pour prévenir les risques d'anomalies.
Mais pourquoi vous n'en mettez pas dans le pain ?
En France, le pain est un aliment sacré, en quelque sorte. C'est un produit traditionnel. On ne le transforme pas.
Pourtant, vous ajoutez des vitamines dans certains aliments.
Oui, certains aliments sont enrichis en vitamines ou en minéraux, mais ce n'est pas obligatoire. C'est aux fabricants de choisir.
Si je comprends bien, ce qui vous inquiète, ce n'est pas de manquer de vitamines, mais d'en prendre trop.
Oui, ça dépend des pays. En France, ou plus généralement en Europe, on n'a pas tellement de problèmes de carence. Le problème, ce sont plutôt les excès. Trop de sucre, trop de sel, voire trop de vitamines. Si on prend des aliments enrichis, des aliments de base riches en vitamines et minéraux, ou des suppléments, on peut arriver à des apports excessifs.
Bon appétit.
Bon appétit.
Vous mangez des aliments enrichis en vitamines?
Non.
Non.
Pourquoi?
Parce que alors moi, j'aurais peur de faire une surdose. C'est-à-dire qu'à un moment, on prend déjà beaucoup, parce qu'on mange beaucoup déjà de légumes, plus les compléments, plus si on prenait des aliments enrichis, je crois que j'aurais peur de dépasser justement la dose journalière, de prendre trop de vitamine C. Et les aliments qui sont enrichis, je ne sais pas trop comment c'est fait l'enrichissement. Je préfère prendre les vitamines à part en me disant ça c'est un médicament, je sais que je prends un médicament. Et quand je mange de la nourriture, je ne mange pas des médicaments.
Avant de décider d'enrichir certains aliments, les États ont soigneusement pesé les risques et les avantages de l'opération. Mais aujourd'hui, l'industrie alimentaire peut enrichir quasiment tous ses produits sans que la décision fasse l'objet d'un examen.
Aux États-Unis, on peut écrire sur l'étiquette d'un produit qu'il fournit 200% des apports journaliers recommandés. Mais si on recommande 100%, pourquoi prendre 200%? Les Américains sont habitués à ce genre d'affirmation. Ils sont habitués à entendre que trop, c'est beaucoup mieux. En Europe, on n'est pas du tout dans cet état d'esprit.
Aujourd'hui, il y a une vitamine qu'on ajoute de plus en plus dans les produits alimentaires. C'est la vitamine D. On a établi un lien entre une carence en vitamine D et le cancer, des maladies cardiaques, la démence, en tout, plus d'une centaine de pathologies. Certains avancent même qu'on serait en pleine carence globale de vitamine D. Alors, comment savoir si on doit en prendre davantage? Je suis venu dans l'un des endroits les plus froids de la planète pour mieux comprendre cette vitamine qui enflamme le milieu scientifique. Pendant des siècles, une maladie terrible et mystérieuse a touché des milliers d'enfants à travers le monde. Leurs os étaient peu résistants et cassés facilement, beaucoup souffraient de déformations et beaucoup mouraient. Cette maladie, on l'a appelée le rachitisme, mais on ne connaissait pas sa cause. Bizarrement, il y avait moins de cas ici, sur les côtes de Norvège. Et tout semblait indiquer que c'était grâce aux poissons. Ici, entre janvier et avril, c'est la saison du skraï, la grande pêche au cabillaud ou à la morue. On en pêche plusieurs centaines de milliers de tonnes. Leur chair contribue à nourrir le monde. Ça, c'est un gros poisson. Mais ils ont une autre valeur. On en tire un remède traditionnel, l'huile de foie de morue. Ici, en Norvège, les récits du pouvoir guérisseur de cette huile miracle remontent à plus de 1000 ans. C'était un élément clé de l'alimentation viking. Il leur donnait force et vitalité. Les Scandinaves l'appelaient l'or de la mer. On s'en met partout. Je suis pas sûr d'aimer ça. Comment on sait lequel a un gros foie? C'est celui-là, je dirais. C'est le foie? Oui, exactement. Alors, l'huile de foie de morue, c'est un aliment ou un remède? C'est les deux. Si vous mangez du foie et que vous prenez de l'huile de foie de morue tous les jours, vous ne serez jamais malade.
Enfin, vous aurez peut-être le mal de mer.
Mais pas de vraie maladie. Ça a le goût du poisson?
Le goût est assez spécial.
Vous aimez ça?
Non. On ferme les yeux et on boit.
Il y a des centaines de milliers de têtes et de queues fixées sur des séchoirs. On en voit dans presque tous les villages. C'est vraiment impressionnant de voir l'ampleur de la pêche au cabillaud dans la région. Et l'odeur. Des villages entiers sont enveloppés de cette puanteur. Les gens d'ici disent que c'est le parfum de l'argent. Mais la valeur du cabillaud et de son foie va bien au-delà. Elle touche à la santé. Magritte Brustad est spécialiste des liens entre les aliments, comme le cabillaud, et les maladies, comme le rachitisme.
Il y a quelques années, le rachitisme était un énorme problème sanitaire ici en Norvège. Le rachitisme est une maladie qui se caractérise par des os mous. Il entraîne la déformation du squelette et c'est extrêmement douloureux.
Si on est touché durant l'enfance, c'est irréversible?
Oui, si ce n'est pas soigné.
C'est vraiment terrible.
Oui, c'est très douloureux. On savait depuis longtemps que l'huile de foie de morue pouvait guérir le rachitisme, mais on ne savait pas pourquoi.
Magritte et moi sommes venus voir comment on transforme le cabillaud en huile de foie de morue.
Bienvenue!
Merci.
Vous aviez déjà vu la fabrication?
Non.
L'affaire est simple, quoique pas très appétissante. On prélève le foie du poisson, on le met dans un tonneau et on le laisse se décomposer. À mesure que le foie pourrit, l'huile devient plus foncée. Puis, on prend l'huile à la surface et on boit.
You're sure this is safe?
C'est pas mauvais.
C'est bien meilleur que dans mes souvenirs d'enfance.
C'est vrai? Franchement, je m'attendais à bien pire. L'huile de foie de morue s'est montrée si efficace contre le rachitisme que toute l'Europe s'est mise à en donner aux enfants. Et dans les années 1870, elle a débarqué en Amérique. Le marketing de masse a commencé. Mais on ne savait toujours pas pourquoi ça fonctionnait.
Au tout début, l'huile de foie de morue a été présentée comme un produit qui permettait de redonner de la vigueur, de se remplumer. Cette marque, Scott's Emulsion, était l'une de celles qui se vendait le mieux. Scott a commencé à fabriquer ce produit dans les années 1870. Il croyait vraiment à la publicité. Et il a fait fortune avec son émulsion. Quand on commercialise un produit, on essaie d'encourager les gens à en consommer le plus possible.
À la fin des années 1890, l'industrie de l'huile de foie de morue est en pleine expansion. Mais le marketing est en avance de plusieurs décennies sur la science. Il faudra attendre 1913 pour que deux biochimistes, Elmer McCollum et Marguerite Davis, montre l'existence d'un nutriment essentiel dans l'huile de foie de morue. Il l'appelle le liposoluble A. A pour la première vitamine. Plus tard, Elmer McCollum identifie une autre vitamine dans l'huile de foie de morue, le liposoluble D, la quatrième vitamine. Et il prouve que c'est la vitamine D qui guérit le rachitisme.
On a ces découvertes scientifiques qui viennent renforcer un marché déjà existant. Les entreprises qui commercialisaient ce type de produit n'auraient pas rêvé mieux.
C'est vraiment incroyable.
Oui, ça l'est.
Il semble qu'un autre élément entre en jeu. En 1920, une microbiologiste appelée Harriet Schick mène une expérience sur des enfants. On donne de l'huile de foie de morue à la moitié d'entre eux et rien à l'autre moitié. Sans surprise, les enfants qui ont pris de l'huile ne sont pas touchés par le rachitisme. Mais la scientifique remarque autre chose. Les enfants malades qui passent du temps à l'extérieur guérissent plus vite. Elle démontre que l'huile de foie de morue et le soleil guérissent tous deux le rachitisme. Et le lien, c'est la vitamine D.
Alors, ça fait du bien le soleil ?
Un bien fou.
Comment le soleil donne-t-il de la vitamine ? Quand ses rayons frappent notre peau, il se produit quelque chose d'extraordinaire. L'épiderme contient un dérivé du cholestérol. Quand cette molécule est exposée aux ultraviolets, elle est transformée et convertie en un type de vitamine D. Le même type de vitamine qu'on trouve dans l'huile de foie de morue. Elle est ensuite transportée vers le foie. Là, elle prend la forme que les médecins mesurent dans notre sang. Elle se transforme une dernière fois dans les reins et devient active. Désormais, elle peut participer à l'absorption du calcium pour faire des os résistants et sains. Le rachitisme n'est plus à craindre.
J'ai assez pris le soleil pour la journée.
Mais en hiver, le Grand Nord est plongé dans la pénombre. Pendant de longs mois, on manque de soleil et donc de vitamine D. Alors, au fil des générations, les habitants ont mis au point un menu assez remarquable, capable de compenser ce déficit.
La chair, c'est du cabillaud. Vous avez aussi des œufs de cabillaud. Et là, c'est le foie bouilli, avec de l'huile de foie de morue mélangée à de l'oignon, du poivre et du sel. Et des pommes de terre. Les Norvégiens mangent beaucoup de pommes de terre.
Très bien.
C'est le meulieu, un plat traditionnel plein de vitamine D. Un repas comme celui-ci vous apporte entre 16 et 20 fois les doses journalières recommandées en vitamine D. Dans nos pays du Nord, ils préservent nos taux de vitamine pendant les mois d'hiver.
Mais tout le monde n'aime pas les poissons gras, et encore moins le foie et l'huile de foie de morue. Alors les scientifiques ont inventé quelque chose de beaucoup plus appétissant.
Le premier comprimé de vitamine important, c'est l'oscodal. Il a été mis au point par Casimir Funk. Cette huile de foie de morue qui soulève le cœur devient un joli petit cachet enrobé de sucre.
En fait, c'est l'huile de foie de morue qui a déclenché la folie des vitamines.
Oui, absolument. C'est le point de départ de tout ça.
Les comprimés sont désormais facilement accessibles. L'ère du cabillaud comme source première de vitamine D touche à sa fin. Bientôt, cette vitamine sera produite de façon complètement différente, à partir d'un animal complètement différent. Aujourd'hui, la quasi-totalité des comprimés de vitamine D est fabriquée à partir de la laine huileuse des moutons. Principalement de moutons australiens. Comment transforme-t-on de la laine de mouton en vitamine ?
Allez, je me lance.
La fibre est enrobée d'une couche de graisse, la lanoline. C'est ce qui fait sa douceur au toucher. La lanoline est un mélange d'acides gras produit par les glandes sébacées du mouton. Elle est essentielle dans la fabrication de la vitamine D de synthèse. Et voici comment on peut l'extraire. D'abord, on sépare la lanoline de la laine en la plaçant dans un mélange d'eau bouillante et de détergent. La lanoline est composée à 15% d'un dérivé du cholestérol, le même qu'on retrouve sous notre épiderme. Il faut l'extraire puis l'oxyder pour produire une nouvelle molécule. On irradie cette dernière à l'ultraviolet et on obtient un précurseur de la vitamine D. Ce procédé chimique imite un processus naturel, l'effet du soleil sur notre peau. Encore quelques étapes et on obtient le produit fini, la vitamine D de synthèse. Bien sûr, tout cela n'est pas fait dans un bocal, mais à l'échelle industrielle, dans des usines. Des chimistes de l'université de Melbourne ont calculé qu'on pouvait gagner beaucoup d'argent avec une peau de mouton. Sur Internet, la vitamine D3 se vend à environ 50 $ australiens le gramme, une trentaine d'euros. Mais en comprimé, le gramme peut atteindre 3 700 $, 2 400 euros. Ce qui rend la vitamine D plus précieuse que l'or. Reste la question en or, justement. Doit-on prendre des comprimés de vitamine D? Aujourd'hui, nous passons le plus clair de notre temps à l'intérieur. Notre exposition à la lumière directe du soleil est réduite. Alors, avons-nous besoin de davantage de vitamine D? Devons-nous prendre des suppléments? Rachel Neal contribue à une étude mondiale sur le sujet.
La vitamine D n'est pas seulement une vitamine, c'est aussi une hormone. Son rôle est majeur dans le fonctionnement des cellules de l'organisme. Elle contrôle, par exemple, si une cellule va se multiplier de façon anarchique et devenir un cancer, ou si elle va muter et mourir. C'est donc une molécule extrêmement puissante, et il faut en avoir une connaissance beaucoup plus approfondie avant de recommander la prise de suppléments.
Rachel dirige l'un des plus grands essais cliniques du monde sur les doses élevées de vitamine D. 21 000 individus participent à l'étude. Pendant 5 ans, ils vont prendre soit un comprimé de vitamine D, soit un placebo à base de sucre. Le but est de déterminer si les compléments de vitamine D réduisent les risques de cancer et d'autres pathologies.
Le grand public a tendance à croire que les effets bénéfiques de la vitamine D sur des problèmes de santé comme le cancer ou les maladies cardiovasculaires sont prouvés. En réalité, on sait que la vitamine D est très importante pour les os, mais pour le reste, on n'a aucune preuve.
Pourquoi tant d'incertitudes? D'abord, on ne sait pas exactement quels sont les apports journaliers nécessaires. Pour mesurer la vitamine D dans le sang, on utilise généralement une unité qu'on appelle les nanomoles par litre. En dessous de 25 unités, on est en carence, tous les spécialistes sont d'accord là-dessus. Mais il est plus épineux de définir le taux suffisant. On sait qu'un niveau de 50 unités suffit à garantir des os en bonne santé pour la plupart d'entre nous. Mais certains avancent le chiffre de 75, 100 et même plus. Notons que les États-Unis utilisent une autre unité de mesure. Les nanogrammes par millilitre. La conversion n'est pas évidente et sème la confusion entre les nations.
Pour l'instant, nous n'avons pas de chiffres qui mettent d'accord toutes les organisations, tous les scientifiques et tous les médecins dans le monde.
Autre controverse, les analyses de sang. En fonction des laboratoires, les résultats peuvent être très différents. Et bien qu'on sache que prendre des suppléments de vitamine D augmente son taux circulant dans le sang, on ne sait pas si c'est bon pour la santé. Donc on ne connaît pas les effets de la vitamine D.
On a une idée de ce que fait la vitamine D, mais ce qu'on ne sait pas, c'est si en prendre en complément.
En fonction de leur approche, les études apportent différentes informations. Ils sont en train de prendre une bonne dose de vitamine D. Pour la vitamine D, ce sont souvent des études d'observation. On observe les faits. Par exemple, les personnes atteintes d'un cancer ont souvent des taux sanguins de vitamine D assez bas. Le lien existe donc, et potentiellement, il est important. Mais ça ne nous dit pas si la faiblesse du taux est la cause ou la conséquence du cancer. Pour le savoir, il faut employer la méthode inventée par James Lind en 1747, l'étude clinique randomisée. Prenez un ensemble de personnes, répartissez-les au hasard en deux groupes. Donnez de la vitamine D à l'un et un placebo à l'autre. Cette fois, si on constate une différence entre les deux groupes, c'est donc la vitamine D qui en est la cause. Mieux encore, réalisez cette étude à grande échelle. Plus l'étude compte de sujets, plus le résultat est probant. L'étude de Rachel donnera ses premiers résultats en 2021.
C'est passionnant, mais pour l'instant, on reste dans l'incertitude quant aux recommandations à faire à la population.
Malgré ces incertitudes, en 2016, des chercheurs britanniques ont conseillé d'augmenter l'apport journalier recommandé en vitamine D. Mais ils ne font pas l'unanimité. Depuis, l'un des grands défenseurs de cette cause a changé d'avis. Il s'appelle Tim Spector et il est généticien.
J'ai beaucoup étudié la vitamine D au cours des 15 dernières années. Nous avons été les premiers à montrer que les gènes ont une incidence sur le taux de vitamine D. On avait toujours cru qu'il dépendait de l'exposition à la lumière ou de la consommation de poissons gras. En fait, il peut varier de 50% en fonction de nos gènes. Donc, le taux normal de vitamine D sera différent d'un individu à l'autre. Ce principe vaut pour toutes les vitamines qu'on a pu tester jusqu'à présent. Par conséquent, il y a autant de taux normaux que d'individus. Votre taux normal peut être 3 fois plus élevé que le mien, et on est capable de déterminer à coup sûr les taux suffisants ou trop bas. Il faut que l'opinion publique sache qu'il y a une controverse. Les hormones et les vitamines sont importantes, mais attendons que des études aient été faites avant de prendre une décision. C'est aberrant de foncer vers les produits chimiques et de s'inquiéter après. Il faut être sûr de ne pas prendre une décision néfaste.
Il est évident qu'il faut soigner les personnes qui souffrent de carences en vitamine D et reconnaître la réalité de ces carences. Mais pour l'instant, nous ne pouvons pas affirmer que prendre un complément de vitamine D sera bénéfique.
Et si tout simplement, on prenait davantage le soleil? Mais alors, quid du risque de cancer? Comme toujours avec la vitamine D, c'est compliqué. Dans les pays du Sud, de courtes expositions au soleil du matin, quelques fois par semaine, suffisent. Et sous un ciel plus gris, eh bien, il faut s'exposer davantage au soleil. Ou alors, votre médecin vous recommandera peut-être un complément en vitamine D.
Alors, je prépare sa vitamine, c'est 4 gouttes. Des fois, il y a 5. Elle prend jamais tout exactement. C'est difficile vu qu'il y a la cuillère, il en reste un petit peu sur le bol. Donc voilà, souvent on met 5 comme ça, on se dit que au moins elle en prend 4. On va prendre la vitamine. Elle prend ça tous les jours pour renforcer ses os et pour éviter le rachitisme.
C'est recommandé par le médecin?
Par le pédiatre, oui. On sort de la maternité avec une prescription et tout de suite on doit donner la vitamine D. Et même le premier jour de naissance, en fait, à l'hôpital, on nous apprend à donner la vitamine D.
La vitamine D est puissante, on l'a dit. Alors que se passe-t-il quand on abuse des bonnes choses?
Ils sont nés à 9h45. Il est sorti en premier et elle est arrivée tout de suite après. Ils ont 1 minute d'écart.
Quand Becky Jackson a accouché de ses jumeaux, elle était aux anges.
Là, ils ont 3 mois. Au début, Joe était très potelé.
Et puis, vers 5 mois, Becky a remarqué que sa fille ne grandissait pas aussi vite que son frère. Elle a commencé à s'inquiéter.
Ici, elle a 5 mois. On voit qu'elle a des poches sous les yeux qui sont plus enfoncées. Et son visage est un peu bizarre. Ça n'avait rien d'alarmant jusqu'à cette photo-là.
Soudain, tout bascule. Elizabeth ne prend pas de poids, elle ne mange plus.
Un jour, en changeant sa couche, j'ai remarqué que son ventre était creusé. Elle avait les côtes saillantes et sa peau avait un aspect et une texture étrange, un peu comme de la pâte à pizza.
Becky emmène sa fille chez le médecin pour une analyse de sang. Le lendemain, la pédiatre la rappelle.
Elle m'a dit, il faut que vous alliez tout de suite à l'hôpital. Dans son sang, c'est le chaos. Les taux qui devraient être bas sont hauts et inversement. Rien n'est à sa place.
«
J'ai paniqué. Pendant deux jours, je n'ai pas compris ce qui se passait. C'était ça le plus angoissant.
Les examens ont révélé qu'Elisabeth avait un taux élevé et toxique de vitamine D, ce qui entraînait des concentrations de calcium très élevées dans le sang.
Avant Elisabeth, je n'avais jamais vu de cas de concentration toxique de vitamine D. Elle n'avait que 5 ou 6 mois. Et à cet âge, l'alimentation du bébé se réduit au lait maternisé. Donc, il a fallu enquêter sur les causes de ce taux.
Quand ils m'ont parlé d'hypercalcémie, j'ai fait comme tout parent, je suis allée me renseigner sur Internet. J'ai lu tout ce que j'ai pu à ce sujet. Et dans chaque article, je voyais qu'on parlait toujours de taux élevés de vitamine D, de surdose. Et là, j'ai tout compris. On prend d'abord du lait de chèvre en poudre, on en met 8 mesures.
Becky n'a alors pas assez de lait pour les deux jumeaux. Elle nourrit Joe exclusivement au sein, mais complète l'alimentation d'Elisabeth avec un lait maternisé fait maison.
Vitamine C, vitamine E, calcium de corail, huile de foie de morue.
Une recette biologique à base de lait de chèvre et de coco, vendue dans une épicerie bio locale.
De la lécithine de soja, qui est un épaississant.
Ne voulant que le bien de son enfant, Becky décide d'ajouter un petit quelque chose au mélange.
Et pour finir, la vitamine D.
Vous en mettiez combien ?
La recette dit une goutte. Une goutte.
C'est tout ce qu'il faut mettre.
C'est tout. Ça me semblait ridicule. C'est idiot, ça ne peut pas avoir d'effet sur qui que ce soit. Alors, je mettais le compte-goutte entier.
Un compte-goutte entier pour bébé fait en général 1 ml, soit entre 20 et 30 gouttes. Quand on a trop de vitamine D, on réabsorbe le calcium. Parmi les symptômes de cette forte concentration en calcium, on a une augmentation des urines, un manque d'appétit et donc un risque élevé de déshydratation. Si cet état avait persisté sans traitement ou intervention, Elisabeth aurait pu faire une insuffisance rénale.
Et là, c'est à l'hôpital avec la sonde d'alimentation, mais elle a déjà récupéré, elle a pris du poids. Elle commence à redevenir un bébé normal.
Après 10 jours passés à l'hôpital, elle retrouve des taux normaux.
Je me suis sentie coupable. C'était ma faute. C'est moi qui l'avais fait. Et je savais que je lui en donnais trop quand je dosais la vitamine. Mais je me disais que ça ne pouvait pas lui faire de mal, c'était juste de la vitamine. C'est comme la vitamine C, on l'évacue quand on en a trop, ça ne pouvait pas être grave. J'essayais simplement d'être une bonne mère, de faire de mon mieux d'une façon qui me paraissait simple, gérable et complètement sans danger.
Les gens sous-estiment le pouvoir de ces vitamines, et notamment de la vitamine D. Des petites erreurs peuvent avoir de grandes conséquences. Des doses 10 fois, 100 fois trop fortes, et c'est le drame.
Désormais, Elisabeth va très bien. Tout est revenu à la normale. Il est difficile de faire une surdose de vitamines avec la nourriture. Mais avec les vitamines de synthèse, rien de plus simple puisqu'on peut en prendre de grandes quantités. Les vitamines solubles dans les graisses comme la vitamine D peuvent s'accumuler dans la masse graisseuse et atteindre des niveaux de concentration dangereux. Becky Jackson et sa famille ne sont pas un cas isolé. En 2015, le centre antipoison américain a recensé plus de 3000 appels pour des enfants de moins de 6 ans qui avaient pris trop de vitamine D. Partout dans le monde, on étudie de près les risques liés à la supplémentation alimentaire.
Les données compilées sur des décennies montrent clairement que ces suppléments ne sont pas sans risque. Aux États-Unis, ils envoient chaque année des dizaines de milliers de consommateurs aux urgences. et des milliers d'hospitalisations sont dues à des effets secondaires graves des compléments alimentaires. Tonight, Walgreens and Target have pulled the products nationwide. GNC did the same in New York.
En 2015, à New York, les compléments alimentaires ont été retirés des rayons de quatre grandes chaînes de pharmacies. La plupart des compléments testés ne contenaient pas les ingrédients indiqués sur les étiquettes, et beaucoup contenaient des polluants.
On a des risques importants pour la santé du fait de manquements majeurs dans le processus de fabrication. On avait par exemple des multivitamines dans lesquelles la quantité de minéraux était 100 fois supérieure à ce qu'elle aurait dû être, ce qui a entraîné de graves problèmes de santé. Dans d'autres produits multivitaminés, on a trouvé des drogues, comme des stéroïdes anabolisants, une hormone prohibée que les haltérophiles prennent pour être plus forts. Et ils étaient présents en telle quantité qu'ils ont rendu les consommateurs malades.
Chaque vitamine peut entraîner des risques spécifiques.
Certains de mes patients souffrant d'ostéoporose ont des concentrations en vitamine D 5 ou 10 fois supérieures à la normale. Et les dernières études montrent que ces personnes sont plus sujettes aux fractures. Elles risquent davantage de faire des chutes. On a de plus en plus de données qui montrent que les vitamines agissent dans une fenêtre relativement étroite.
Toutes les vitamines peuvent avoir des concentrations toxiques. Et parfois, ces taux ne sont pas tellement plus élevés que les apports journaliers recommandés. J'ai beaucoup de patients dont les taux de vitamine B6 atteignent des niveaux toxiques. Et ça peut notamment entraîner des lésions nerveuses.
Dans les années 90, une étude sur un dérivé de la vitamine A a dû être interrompue. Il s'est avéré que les participants risquaient de mourir.
Je crois que tout le monde était sous le choc. Il faut tenir compte du type de complément, de son dosage et de la personne à qui on le donne. Il est certain qu'il existe des cas dans lesquels les compléments vitaminés sont clairement bénéfiques. Il existe aussi des cas dans lesquels ils peuvent être nocifs, et beaucoup de cas dans lesquels l'issue reste indéterminée.
Dans l'ensemble, ces produits ne sont pas rigoureusement sans danger. Je ne dis pas qu'ils vont faire du mal à ceux qui les prennent, pas du tout. La majorité des gens ne souffriront pas d'effets indésirables. Mais mon souci, c'est que si ces produits n'offrent pratiquement pas, voire aucun bénéfice à des consommateurs en bonne santé, mais qu'en revanche, ils leur font courir un risque, même mineur, pourquoi devrait-on les recommander? Pourquoi devrait-on même en consommer?
On sait que les médicaments peuvent avoir des effets secondaires dangereux et provoquer des complications. Mais ils sont clairement indiqués sur la notice. Les médecins en tiennent compte. C'est un risque connu. Le problème des vitamines et des compléments alimentaires, c'est qu'ils sont perçus comme étant sans risque. Pourtant, ils peuvent entraîner des complications et avoir des effets secondaires. Et il peut y avoir des produits néfastes. Bref, ils ne sont pas sans risque. Et pourtant, aux États-Unis, rien n'oblige les fabricants à démontrer l'innocuité ou l'efficacité de leurs produits avant de les mettre sur le marché.
Aux États-Unis et dans beaucoup d'autres pays, la loi est très souple. On peut mettre n'importe quel mélange de vitamines et de minéraux dans un produit, lui donner n'importe quel nom et affirmer qu'il a telle vertu thérapeutique. C'est le Far West.
Le fait que la consommation de compléments alimentaires ne soit pas encadrée pose un vrai problème. On y trouve certains ingrédients qui ne devraient pas y être, et inversement. Oui, c'est un peu le Far West.
La réglementation varie selon les pays. En Europe, les vitamines sont considérées comme des compléments alimentaires. Les fabricants ont l'obligation d'utiliser des ingrédients sans danger. En revanche, rien ne les oblige à prouver l'innocuité ou l'efficacité de leurs produits pour qu'ils soient commercialisés. Mais la loi est tout de même plus stricte qu'aux États-Unis. Si on veut afficher un bénéfice pour la santé sur l'étiquette, il doit être prouvé scientifiquement.
La réglementation est très importante. Sinon, les fabricants pourraient dire que leur produit a des effets bénéfiques alors que ce n'est pas prouvé. On trompe les gens. Ils vont dépenser leur argent alors que le bénéfice du produit n'est pas démontré et qu'il a peut-être même des effets indésirables. Donc oui, il faut que ce soit encadré. C'est très important.
En France, il faut généralement une ordonnance du médecin pour les doses élevées de vitamines. Mais on achète de plus en plus nos vitamines en ligne. Et là, c'est au consommateur de se montrer prudent. Il ne faut pas oublier pour autant qu'en cas de vraie carence, les compléments vitaminés peuvent changer des vies. Elles peuvent sauver la vue d'un enfant. Elles peuvent sauver des vies. Mais si on est en bonne santé, sans carence connue, est-ce qu'on doit en prendre? Je pars pour la dernière étape de cette enquête. Je vais découvrir les résultats de 50 années de recherche consacrées au maintien des êtres humains en bonne santé. Pas seulement sur Terre, mais dans l'espace. 10, 9, 8, 7, 6. Je veux savoir si la NASA compte emporter des compléments alimentaires sur Mars. And lift off at dawn, the dawn of Orion and a new era of American space exploration. La NASA se prépare à envoyer des êtres humains sur Mars vers 2030. Imaginez un voyage aller-retour de 3 ans avec pour seule nourriture ce que vous aurez emporté à bord.
Ils ne peuvent pas descendre dans la rue au restaurant s'ils n'aiment pas ce qu'on leur a préparé, ou aller à l'épicerie et avoir du choix. C'est là qu'on lyophilise les aliments.
Grace Douglas dirige les recherches de la NASA sur la nutrition des astronautes. L'idée est de manger de vrais repas dans l'espace.
Tous les plats lyophilisés sont fabriqués ici, dans ce laboratoire. On les prépare comme à la maison, ensuite on les place ici, on les surgèle et on retire l'eau. Une fois en orbite, on réhydrate le plat et il redevient comme il était avant. Certaines vitamines résistent vraiment bien à ce procédé.
C'est marrant ça. C'est quoi, des crevettes?
C'est ça.
Et ça, c'est un burger. Évidemment, on est en Amérique.
Oui, ça c'est du poulet à la sauce aigre douce.
Alors, la NASA va-t-elle envoyer des compléments alimentaires sur Mars?
Il y en aura un seul, la vitamine D. Parce qu'on la synthétise en s'exposant à la lumière du soleil, et dans l'espace, ce ne sera pas possible.
Uniquement de la vitamine D?
Oui. Les autres nutriments proviendront d'une alimentation variée et équilibrée.
La nourriture, c'est mieux que les compléments?
La nourriture, c'est fondamental pour la santé et la performance des êtres humains. C'est donc un élément central de ces missions. Il y a énormément de vitamines, de minéraux et autres dans la nourriture. Et pour l'instant, on ne sait pas les répliquer dans un comprimé. Allez, c'est parti. Je mets la quantité d'eau indiquée.
J'ai l'impression que c'est vraiment un point incontournable. La nourriture est un atout crucial pour qu'un équipage parvienne sur Mars en gardant la santé et le moral. C'est indispensable.
Oui, c'est un élément de base comme l'oxygène et l'eau. Sans ces trois éléments, l'être humain ne peut aller nulle part ni faire quoi que ce soit. Alors c'est bon?
Super bon. Je pourrais en manger sans problème.
Pendant 3 ans?
Je n'aurai que ça pendant 3 ans?
Oui.
This is Mission Control Houston. As we come up on the first two critical Orion program milestones, the service module fairing panel jettison and the launch abort system jettison, standing by for those...
À mesure que nous comprenons mieux le pouvoir de la nourriture, une vérité extraordinaire se fait jour. En plus des 13 vitamines, il existe des milliers de composés chimiques, une multitude de molécules qui fonctionnent en synergie de façon complexe et souvent mystérieuse. Ensemble, ils nous protègent contre les maladies. Mais ils n'ont pas toujours le même pouvoir quand ils sont isolés de la nourriture.
À l'heure actuelle, on est très loin d'imaginer qu'un complément pourra remplacer ce qu'on tire de la nourriture ou remplacer de vrais repas. La nourriture contient des dizaines de micronutriments essentiels et des milliers de composés dont on sait encore très peu de choses.
Il peut être rassurant de se dire qu'un comprimé va résoudre beaucoup de problèmes de santé ou prévenir les maladies chroniques. Mais pour l'instant, ce n'est pas vrai, ce n'est pas avéré. Ce qui est avéré, c'est le lien entre l'alimentation et la santé.
Malheureusement, il y a eu cette mode et toutes ces affirmations pseudo-scientifiques autour des vitamines. Maintenant, il y a des gens qui ont un esprit logique, scientifique, et qui pensent que les vitamines sont une escroquerie. Ce n'est pas vrai. C'est une science. C'est de la nutrition, de la médecine. L'escroquerie, c'est d'exagérer le pouvoir des vitamines ou de prétendre qu'elles sont autre chose que ce qu'elles sont.
Avant, quand je pensais aux vitamines, je voyais les comprimés. J'avais oublié qu'elles venaient de la nourriture. Maintenant, je sais qu'on peut tirer tout ce dont on a besoin de notre alimentation et qu'on est loin d'avoir compris toute sa richesse. On tire nos vitamines de notre nourriture depuis des millions d'années. Et on aurait tout compris en à peine un siècle. Alors, faut-il prendre des vitamines? Oui, mais en mangeant équilibré. Et si vous sentez que vous avez besoin d'un complément, le mieux, c'est peut-être de considérer les vitamines comme un médicament. Si vous en prenez, prenez-les sérieusement.